Radio Courtoisie, histoire à la loupe.
Roger Tournafon travaillait depuis des années dans un grand groupe d'opérateurs téléphoniques mi-privé, mi-public, dont il avait gravi les échelons pas à pas avec patience et opiniâtreté. Avec la même ténacité, il avait aussi progressé au sein de son comité d'entreprise jusqu'à en devenir le trésorier. S'il avait été promu à ce poste, c'est qu'il en avait les qualités. En effet, son esprit critique affûté lui faisait voir facilement les failles des gens et les opportunités des moments.
Vous écoutez les histoires à la loupe sur Radio Courtoisie. Voici la cinquième partie du récit Marie-Josette Liégeois de Patrick Simon. Montage et arrangement sonore, Sandrine Moutier.
En particulier, il savait vérifier d'un œil avisé les comptes et refaire en un rien de temps, tel un chinois avec son boulier, rapide comme l'éclair mais muet comme une carpe, une opération de calcul complexe ou un horaire précis à répartir. C'était un rouquin, au visage anguleux, aux sourcils épais, au regard inquisiteur et qui souriait rarement. Son apparence vestimentaire, comme son style froid et détaché, dénotait chez ce syndicaliste. On aurait dit un cadre dirigeant, même s'il portait un blue jean impeccablement repassé chaque matin, toujours identique. Entre ses deux sourcils et au-dessus de ses yeux bleu clair, il y avait un pli vertical qui descendait le long du front. Cette ride bien droite, il l'avait depuis sa jeunesse. Elle trahissait ce que tout son être préférait cacher, une contrariété. En effet, peu avant son entrée dans la vie adulte, il avait passé le concours administratif pour être inspecteur du travail. Mais avait échoué, et ce à deux reprises. Ce double échec avait laissé en lui cette marque ineffaçable dont il ne parlait pas, mais qu'il n'oubliait jamais, et dont il tirait régulièrement de nouvelles énergies de persévérance et d'ambition.
La revanche un jour viendra.
Tel était son secret refrain intérieur que, jour et nuit, il se répétait inlassablement. Mais à force de se le répéter et de constater qu'il n'était pas suivi d'effet, une certaine amertume émergeait de son être comme s'il poursuivait une chimère, pensée fugace flottant dans l'air. N'était-il pas temps, pour s'en délivrer, de passer à l'action ? S'était-il persuadé ? Tournafon avait été affecté à un service spécialisé, celui des acteurs de la crypto-monnaie qui ont besoin, via leur téléphone portable, de donner des ordres d'achat ou de vente. Il savait, à une vitesse record, débloquer tout obstacle à leurs initiatives, lorsqu'ils se heurtaient à une panne, une interruption ou un défaut de transmission du message, de sorte qu'il arrivait fréquemment que ces derniers le remercient au moyen d'une gratification spéciale. Il acceptait volontiers ses pourboires par une courbette, un tantinet obséquieuse. Son air sévère disparaissait alors pour laisser place à de l'amabilité. Et comme il avait peu l'occasion de la manifester, elle n'en était que plus expressive et était devenue, avec le temps, un moyen de sortir de son austérité, de se racheter en somme. S'il appréciait ses largesses, ce n'était pas seulement pour l'intérêt pécunier d'en bénéficier, mais plus profondément, parce qu'elle lui permettait de changer de peau, en souriant enfin avec urbanité et gentillesse. Dans le service, on l'avait surnommé moquerie affectueuse plus que médisance de langue de vipère, du joli nom de fouille-merde. Tant il était doué et apprécié pour ses qualités de débloqueur, voire de fouilleur. Dans le comité d'entreprise, il était aussi amené à intervenir. Mais là, il n'y avait pas de gratification. Aussi avait-il pris l'habitude, sans rien demander à personne, de se rémunérer tout seul et discrètement. Au début, il prenait sa dîme sur de toutes petites sommes dérisoires, gouttes d'eau dans l'océan. Puis, constatant l'absence de réaction ou de contrôle et s'enhardissant de ses timides audaces, il avait régulièrement augmenté son prélèvement unilatéral, petit ruisseau dévalant la montagne. C'était facile puisqu'il était le trésorier. Initialement, c'était pour service rendu. Mais avec le temps, cette petite gratte, comme on disait dans le métier, devint une sorte de détournement sans motif précis. Sa revanche, en somme, et prit l'ampleur d'une petite vaguelette au point d'être remarquée par le secrétaire du CSE, Marcel Matisse, un petit gros rondouillard au teint rubicon et aux yeux pétillants, qui le convoqua dans son bureau. Confronté à l'évidence comptable, il fut obligé de lui avouer ses pratiques inorthodoxes.
« Sans doute ma dernière heure dans le groupe est arrivée »,
pensa-t-il, épouvanté et furieux contre lui-même tout à la fois. Aussi, quelle ne fut pas sa surprise et son soulagement d'entendre son interlocuteur lui dire
« Oublions tout cela. Tu es trésorier. Tu sais comment ça se passe dans notre maison. »
Et Marcel Matisse lui répertoria toutes les dépenses suspectes. Bien sûr, il s'empressa d'abonder et de surabonder.
« 12 ordinateurs et 15 téléphones portables. C'est beaucoup pour un comité d'entreprise. »
Matisse en rajouta.
« Il y a bien pire. » Comme trésorier, t'as dû remarquer tous ces matériels de jardinage et ces enceintes connectées, ces gadgets électroniques. Tu crois que ça sert au comité? Et ces billets d'avion ou de train pour aller en province, ces notes de restaurant? Je sais que ces dépenses servent souvent aux responsables syndicaux. Allons, allons, Roger. Tu vas pas me faire croire, toi qui as un œil de lynx, que t'as pas trouvé ça anormal.
Effectivement, Fouille-merde avait bien détecté toutes ces anomalies et s'en était au contraire réjoui, car elle banalisait les siennes.
Le matériel pour jardiner ou pour écouter de la musique, c'est clair que c'est du loisir et pas du travail. Pourtant, c'est dans les comptes. Alors, quand je vois ta gratte, je me dis que ça fait partie d'un tout. Cet argent, c'est celui du groupe qui est puissant. On ne se gêne pas, on puise par-ci par-là, on se sert comme si c'était à nous. Et la direction, elle ne réagit jamais. La direction ferme les yeux car c'est une façon d'acheter la paix sociale ou de mettre de l'huile dans les rouages, si tu préfères. Il n'en demeure pas moins que t'as quand même fauté. Je pense que je peux ignorer ces écarts si en échange tu me rends un petit service.
Ah oui, quel service ? Sankey tourne à fond légèrement inquiet. Et Matisse lui expliqua. Il s'agissait de dupliquer la puce électronique d'un client de l'entreprise. Tournafond réalisa alors que ce qu'on lui demandait revenait à contrevenir à l'obligation de confidentialité en vigueur dans toutes ses affaires et à donner accès à des informations hyper secrètes de certains clients détenteurs de portefeuilles de Bitcoin, leurs adresses, leurs réseaux, leurs contacts.
En somme, c'est un piratage électronique que tu me demandes, non ?
Un peu.
Mais à qui tu veux la donner, cette puce dupliquée ?
Ceux qui la veulent sont de bons payeurs.
Et il lui annonça le chiffre du bakchich à se partager moitié-moitié. Fouille merde se vit alors confronté à l'alternative suivante. Perdre ses fonctions laborieusement obtenues après tant de durs efforts ou toucher un petit pactole permettant d'effacer ses errements passés. Il ne lui vint pas à l'esprit que pour s'en sortir, il aurait pu simplement rembourser ses larcins. Et, sensible à l'appât du gain, il accepta de collaborer sans s'apercevoir qu'il mettait le doigt dans un funeste engrenage. En effet, quelque temps plus tard, Matisse lui fit une nouvelle proposition. Cette fois-ci, il devait prendre l'attache d'une inspectrice adjointe aux services fiscaux chargée de contrôler le CSE et lui demander de faire des recherches sur son logiciel à propos des revenus de certains contribuables ayant déclaré des gains réalisés en crypto-monnaie. Une telle approche revenait à demander à cet honorable fonctionnaire de violer à son tour l'obligation de confidentialité à laquelle elle était tenue. Le trésorier s'en étonna et observa que c'était une façon d'être complice. Mais le secrétaire du CSE le rassura d'un air bonhomme et paternel en lui précisant
« Elle est des nôtres, t'en fais pas. »
Cette curieuse expression « Elle est des nôtres » ne fit qu'alarmer davantage Tournafond, qui se vit dès lors entraîné sans le vouloir dans un dangereux complot ou un périlleux racket, surtout quand le secrétaire ajouta la formule rituelle
« Ils sont de bons payeurs. »
Matisse lui fit savoir que de toute façon le paiement de la récompense resterait occulte et n'apparaîtrait pas dans les comptes du CSE. C'est ainsi que, de fil en aiguille, Fouille-merde participa à ces délits et autres malversations. Du jour au lendemain, il cessa de se sentir amer et frustré et n'entonna plus son refrain intérieur, puisque la revanche, elle était finalement venue. Mais ce sentiment fut remplacé par un autre, plus insidieux et sournois, celui de l'inquiétude, au point qu'il finit par regretter le premier. Effectivement, il y avait de quoi s'inquiéter, car Tournafond fut un jour appelé au téléphone par une personne que Matisse lui avait recommandée, Abdul Wafat. Ce dernier voulait en savoir bien davantage sur quelques fondateurs d'entreprises d'investissement en crypto-monnaie, toujours du numérique.
Ma parole,
se dit le syndicaliste,
ils sont obsédés par le bitcoin.
Mais cette fois-ci, il estimait en avoir assez fait et assez donné et il refusa. C'est alors que petit nuage noir grossissant et de plus en plus sombre, serpent venimeux se levant prêt à cracher son venin, Abdul Wafat, d'ordinaire si taciturne, commença à s'échauffer et devint plus pressant, plus insistant, plus menaçant, laissant clairement entendre que si Tournafond ne coopérait pas, il allait tout balancher de ses vilainies et méfaits qu'il connaissait par cœur.
C'est donc que ce salopard de Marcel l'a briefé.
Piégé de toutes parts, et fait comme un rat au fond d'un trou bouché, Fouille Merde se résolut à donner les informations. Adresse, code secret, comptes en banque, coffre, revenus, existence de sécurité ou d'armes aux adresses en question. Ah, une fois terminé ce sinistre et pénible entretien, et la crapule ayant tourné les talons, Roger Tournafond se sentit épuisé et au plus mal. Il but un grand verre d'eau et s'affaissa sur son siège, catastrophé et horrifié non seulement par ce qui venait de lui être extorqué, mais surtout par la sale gueule d'Abdul.
Ce gars-là n'est pas un plaisantin. C'est un vrai truand, et s'il voulait toutes ces infos, c'était pas pour organiser une surprise partie avec sa cible. Il a certainement vu un braquage ou un enlèvement, et maintenant j'en suis complice.
Un braquage. Roger leva ses mains en l'air, tel un prophète courouché et furibond contre la terre entière, puis les ramena en les passant de chaque côté de son visage, fermant les yeux avec une grimace d'horreur et de consternation.
« C'est fait, et je ne peux plus revenir en arrière !»
se dit-il, abattu. Après quoi, quelques minutes plus tard, relevant la tête de ses mains, planche flottante sur la mer qu'aperçoit le naufragé, lumière vacillante au bout du tunnel, il se mit à penser soudainement à Patricia Benatar. Oui, elle avait assisté à une réunion de l'entreprise, et elle avait prononcé le nom. Mais oui, le nom d'Abdul, aucun rapport pourtant. Mais ses réminiscences fugaces remontaient maintenant à la surface de sa mémoire et se faisaient peu à peu plus précises. Oui, cette fille cherchait des renseignements sur lui. Pour quelle raison? Ça restait fumeux. Mais une chose au moins était certaine, il avait gardé les numéros de la dame. Aussitôt, il lui téléphona et laissa un message puisqu'elle ne répondait pas. « Urgent », précisa-t-il. Elle rappela peu après.
« Ah, je ne suis plus sur ce coup, car j'ai passé le dossier à Marie-Jo. »
« Qui est Marie-Jo ?»
Elle lui fit un bref descriptif. C'était décidé, elle n'y mettrait plus le pied, ni même le doigt de pied. Trop de dangers, trop d'aléas, trop d'attentes infructueuses.
Non, ce n'est définitivement pas pour moi.
C'était dit la quinquagénaire. Mais ça, c'était avant. Avant que Patricia Benatar fasse une nouvelle approche.
Tout, c'est pas la dernière. Quelle dernière? Abdul Wafat, le malfrat, qui t'a réussi à faire coincer. Oui, et alors? Il s'est décoincé. Comment ça? Il a passé un deal pour collaborer avec la justice, comme est repenti.
Mais c'est bien ça.
Oui, jusque-là, c'est bien. Mais après, il en a profité pour se faire la belle quand on l'a transféré dans la prison chez les juges. Et il a disparu de la circulation. On dit qu'il se serait taillé au Maroc et qu'il aurait repris là-bas un business juteux, mais peu recommandable.
Soucieuse de ménager ses effets et de stimuler l'oreille de son auditrice, la Benatar fit une pause.
Quel business? Enlèvement d'entrepreneurs, des cryptomanies. Eh, Marie-Jo, t'aurais pas envie de reprendre la chasse, comme t'as déjà fait?
Oh non, j'arrête.
Ah, je sais bien que t'arrêtes. Seulement là, il s'agit pas d'arrêter, mais de terminer un dossier qui s'est ouvert malgré toi. Et de retrouver cette canaille, bon sang. Faut pas laisser ces pays s'américaniser. C'est un processus de corruption générale qui est en cours par ses voyous et ses sbires.
Et, telle Cassandre, Patricia Benatar se lancha dans une diatribe fulminante et dévorante sur les dangers de l'inaction, de la passivité, de la mélancolie, de la timidité, et aussi sur la nécessité de clore un dossier qui s'était rouvert et de le conduire à bonne fin, quoi qu'il en coûte. De ne pas s'excuser, de demander pardon, bordel. Que c'était malsain de se laisser contaminer par quelque effroi inguérissable et paralysant, ou par une mystérieuse maladie de l'âme. Que la vie, c'était pas d'applaudir poliment à ce qui se passait et de subir toutes ces déconvenues sans réagir.
On est des perfectionnistes toutes les deux. Faut pas laisser notre œuvre inachevée, salie, un échec. C'est pas ton style, Marie-Jo.
Qu'elle lui dit tant et plus, au point de la convaincre, ultimement, de faire un tout dernier effort.
Oh, d'accord. Mais après, j'arrête,
proclama-t-elle, et elle se mit en marche.
Vous venez d'entendre la cinquième partie du récit Marie-Josette Liégeois de Patrick Simon. Rendez-vous vendredi prochain pour la suite de ce récit. Histoire à la loupe.